Je suis heureux de me trouver comme ça devant vous ce matin, pour ce temps où nous nous penchons sur la parole de Dieu. Et peut-être si vous fréquentez régulièrement cette église, vous avez remarqué ces derniers temps, on a beaucoup parlé de comment Dieu nous met en mouvement et de ce que nous voulons vivre en tant qu'église. C'est très stimulant d'étudier ça ensemble. J'apprécie énormément de préparer ces prédications, j'apprécie énormément d'écouter les autres prédicateurs qui prêchent sur le sujet, et c'est quelque chose que nous voulons faire ensemble. Mais ce matin, j'avais envie de regarder un peu notre relation avec Dieu, notre relation personnelle et plus intime dans cette relation. Et j'avais envie... Et avec ce désir, eh bien, je suis allé à un texte qui, pour moi, est un roc dans ma foi. Un texte auquel je reviens toujours, un texte qui me parle particulièrement. Et d'une façon que je ne m'explique même pas parfois à quel point il me parle, c'est le psaume 139. Et j'aimerais le lire avec vous. Donc le psaume 139. Du chef de chœur de David, psaume. Seigneur, tu m'as examiné à fond, tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car... la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Par derrière et par devant, tu m'assièges et tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi, la nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Et comme la lumière, pardon. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être. Tu m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille. Et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Hommes sanguinaires, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leur astuce. Ils t'invoquent pour tromper, eux, tes adversaires. Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les déteste totalement. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de toujours. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'avais envie, pour commencer ce moment de prédication, de faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. C'est de vous demander de quoi parle ce psaume. Je ne demande pas un grand discours, j'ai passé du temps à préparer et j'attends pas que vous en fassiez une étude, mais pour vous, de quoi parle ce psaume? Comment est-ce qu'il vous parle? De moi. Merci Philippe, il me parle de moi. Que Dieu me connaît mieux que je me connais moi-même. Merci Sandra. Il est toujours avec moi. Merci. Comment? Il est la force de ma vie. Merci Jocelyne. Il est présent partout. Merci. Il s'intéresse à moi. Je trouve ça intéressant de voir comment ce psaume parle, et c'est souvent le cas avec les psaumes. J'ai vraiment l'impression que souvent les psaumes, c'est comme un voyage. Un itinéraire intérieur, une évolution que le psalmiste, celui qui a écrit le psaume, fait devant Dieu. C'est un voyage qui part de ce qu'il vit, de son état d'esprit du moment, et il l'expose devant Dieu, il le médite devant lui. Et il se laisse inspirer par ce que Dieu lui dit à ce moment, et il se laisse réorienter vers ce qui est conforme à sa volonté. Donc je vois souvent les psaumes comme ça, comme des voyages, des trajets, des trajectoires. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de regarder ce psaume un peu dans le désordre, regarder les impressions qui se dégagent de ce parcours, comme on pourrait regarder avec un ami les photos d'une randonnée qu'il a faite et qu'on prendrait dans le désordre. Et puis, après avoir regardé comme ça ces différents points de vue, reconstituer l'itinéraire du psalmiste. Alors, vous avez été plusieurs à dire ce que ce psaume vous évoque, comment il vous parle, de quoi il parle. Il y a une chose, moi, qui me touche en premier quand je viens sur ce psaume, c'est que je trouve qu'il parle d'amour. Il parle d'un Dieu qui aime et qui est toujours avec nous, où que nous soyons, transportés par une grande joie, complètement abattus par le deuil, seuls, éloignés de la communauté, dans le doute ou la dépression, il est toujours là, présent à nos côtés. Il soutient et guide lorsque nous sommes dans l'interrogation. Et il porte sur nous son regard d'amour. À ses yeux, nous sommes des créatures merveilleuses. C'est ce verset 14 qui fait partie de ces versets très connus de la Bible. Dans ce que je vous ai lu, c'est « Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse ». La traduction n'est pas la plus frappante. J'ai regardé ce qu'il y avait dans d'autres traductions. La Bible en français courant, par exemple, traduit « Merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille ». Parole de vie traduit « Mon corps est étonnant et très beau ». Et la Tobe, je confesse que je suis une vraie merveille. Voilà le regard que porte Dieu sur chacun d'entre nous. Voilà le regard qu'il pose sur nous. Une vraie merveille. Et cette parole du psalmiste, là, au cœur du psaume, ce n'est pas une parole d'autosatisfaction. Regardez-moi, je suis trop beau. Non, ce n'est pas ça. C'est une déclaration de foi. Il déclare, si le Seigneur est tout-puissant, si le Créateur a fait toutes choses bonnes, alors j'accepte qu'il en soit de même pour moi. S'il a fait toutes choses bonnes, moi aussi, je suis bon. Vous aussi, vous êtes bons, de belles créatures. C'est une invitation à nous aimer tel que Dieu nous aime. À aimer les autres également, tels que Dieu les aime. Comme des créatures merveilleuses. Cet amour que Dieu a pour nous, il repose sur la connaissance qu'il a de nous. Ça me fait penser à la relation qu'il peut y avoir entre des parents et des enfants. Les relations entre les parents et les enfants sont parfois compliquées et des fois les parents ne sont pas à la hauteur. Mais il y a une relation particulière qui est faite de par la proximité, de par la façon dont on se connaît. Et Dieu nous connaît mieux que personne. Il nous connaît physiquement, il nous voyait même avant notre naissance. Mon médecin m'étonne souvent. Quand je lui décris mes soucis de santé, par les questions qu'il me pose, je suis toujours surpris. Il me pose des questions auxquelles je n'avais pas pensé, mais qui sont tout à fait justes. Et je pense, mais comment est-ce qu'il sait ça? Comment il sait que je ressens ça? J'ai l'impression parfois qu'il comprend mieux que moi comment je fonctionne. Et de même avec la médecine moderne, quand un couple attend un enfant, on connaît de mieux en mieux le futur bébé. On peut le voir alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. On peut deviner certaines malformations. Ce n'est pas 100% précis, mais quand même, quand on voit ce petit être sur l'écran, ça fait quelque chose. Et avec la génétique, alors, on est également capable de voir certains traits physiques qui seront développés plus tard. C'est un domaine encore soumis à la recherche, c'est pas précis du tout, mais on sait de plus en plus de choses. Avant tout cela, avant tous les progrès de la médecine, avant que ce soit imaginable, le psalmiste avait conscience que Dieu voyait tout ça. Que Dieu sait tout ça. Comment on fonctionne, ce qu'on va devenir. Avant même qu'on naisse, chacun des jours que nous allons vivre, il les connaît. Mais encore plus fort, ce psaume dit que Dieu comprend ce que nous faisons. Il comprend nos actes, nos attitudes. Que nous nous levions et nous mettons en marche, ou que nous restions assis ou couchés, il le sait. Et c'est la même chose avec nos paroles, avec ce qu'on dit. Non seulement il les connaît toutes, mais il les connaît avant même que nous les prononcions, avant même que nous-mêmes nous sachions ce que nous allons dire. Rien de ce que nous ne faisons ne lui est caché. Et c'est peut-être ça le problème. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce psaume, il y a aussi un désir de fuite. Il y a un désir de s'enfuir. Le verset 7. Où fuirais-je pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Le psalmiste voudrait donc fuir un tel amour, un amour parfait, un amour qui nous voit merveilleux. Quand Dieu a une telle connaissance de nous, on peut comprendre ce désir de fuite. Parce que dans ce que je fais, ou dans ce que je ne fais pas, dans ce que je dis ou dans ce que je ne dis pas, il faut que je vous avoue quelque chose. Il y a des choses dont je ne suis pas fier. Combien d'actes regrettables j'ai pu commettre sous le coup de la colère. Combien de trahisons par égoïsme, combien de paroles blessantes que j'ai regrettées, combien de pensées mauvaises dont j'ai été bien content qu'elles restent dans ma tête parce que je n'étais pas prêt à les assumer devant tous. Et Dieu voit tout ça. Dieu connaît tout ça. Et non seulement il le connaît, mais en plus, il sait que ça va arriver avant même que je le fasse. J'ai envie de dire, au secours, tu ne peux pas me laisser 5 minutes. J'ai du mal à me supporter de me voir dans un miroir. Alors supporter ton regard. Malgré tout ça, malgré tout ce qu'il sait, Dieu nous aime toujours. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de vouloir comme ça fuir le Seigneur. Moi, je me souviens d'une fois, j'ai fait quelque chose qui m'a dégoûté. Et non seulement j'avais péché, mais en plus en regardant en arrière, j'avais été imprudent, je m'étais approché des limites, je n'avais pas pris garde aux avertissements et j'étais tombé dans le panneau, quelque chose que j'avais tout de suite regretté. On a étudié ici en prédication la chute d'Adam et Ève et on voit ça. Adam et Ève qui pêchent et tout de suite, ils ont conscience de combien ils sont nus, combien ils sont vulnérables et nuls et qui veulent se cacher de Dieu. Mais en méditant ce texte, j'ai pensé à Pierre, le disciple de Jésus. Alors que Jésus annonce sa mort, Pierre annonce plein d'assurance qu'il l'aime comme personne et qu'il ne l'abandonnera jamais. Il est là, Pierre, il est entier. Et quand il aime, c'est à fond et il le dit. Et c'est chouette, c'est encourageant. Mais Jésus, qui connaît par avance la parole, avant même qu'elle soit sur ses lèvres, lui annonce qu'il ne tiendra pas ça et qu'il le reniera. Qu'il dira à tous qu'il ne le connaît pas. Avant même la fin de cette nuit, avant le chant du coq, 3 fois, il l'aura renié. Et Pierre, quand il entend ça, il n'y croit pas, il est à fond. Mais vous connaissez sûrement la suite. Quand Jésus est arrêté, eh ben Pierre le suit alors que tous sont partis. Il le suit et il va là où il est arrêté, au milieu des soldats. Et quand on le confronte et qu'on lui dit « Mais toi, tu connais Jésus ?» En milieu hostile, il dit « Non. Non, je ne connais pas. » Exactement comme Jésus l'avait dit. Et au petit matin, quand le coq chante, il se souvient que Jésus l'avait mis en garde. Et là, dans l'évangile de Luc, l'évangéliste décrit qu'il croise le regard de Jésus. Comme ça a dû être terrible. Et je suis sûr que Pierre aurait voulu fuir loin de cette présence. Mais plus tard, après la résurrection, ils vont se retrouver, Jésus et Pierre. Et Jésus fera référence à cet événement. Alors, Pierre, où en es-tu? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Et Jésus lui tend la main. Non seulement il le pardonne, mais il le réoriente. Il le restaure et lui fait confiance pour s'occuper du troupeau. Et voilà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas l'amour d'un papy gâteau, un faible qui passe tout ce qu'on fait, qui tient compte de rien. Non, il regarde en face ce qu'on fait. Et son amour dépasse ça. Il sait ce qui est bon, ce qui est bon pour nous, et il veut nous y amener. Voilà son amour. Voilà comment s'exprime son amour. Et c'est la prière qu'il y a à la fin du psaume. Examine-moi à fond et connais mon cœur pour me réorienter. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la lecture, ce sont les mêmes mots au début et à la fin du psaume. Au début, « Seigneur, tu m'as examiné à fond, tu me connais. » Et au verset 23, « Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. » Sauf que le constat de départ s'est transformé et est devenu une prière. Seigneur, cette connaissance parfaite qui me gêne, maintenant que j'ai compris ton amour, je la veux, je la demande pour t'être agréable. Et si on peut revenir à cette histoire avec Pierre, Pierre, c'est quelqu'un d'entier. Et comme je l'ai dit, son enthousiasme, il est beau. Et Jésus l'a plusieurs fois mis en valeur, cet enthousiasme. Mais cet enthousiasme comporte aussi des faiblesses. Dieu aime Pierre avec ses forces et ses faiblesses. Et il est prêt à travailler sur ses faiblesses pour aller plus loin dans la voie de toujours, dans la voie de l'éternité. Vous voyez peut-être un peu la trajectoire de ce psaume, l'itinéraire du psalmiste. Mais il y a un passage délicat que nous n'avons pas regardé. Comme dans une promenade, là, il y a une descente un peu escarpée, un peu technique sur laquelle il faut faire attention. Un passage qui fait frémir par toute la violence qu'il contient. Si tu faisais mourir le méchant, quelle place ont de tels termes dans une prière? Quel lien avec le reste du psaume? Ça, c'est toujours un mystère et je crois que nous aurions tort d'écarter les passages qui nous dérangent. Ils sont là, ils sont présents. Il faut qu'ils nous interpellent. Ce n'est pas le seul endroit dans les psaumes où il y a des pulsions violentes qui s'expriment. Et pour être honnête, ici c'est plutôt soft, à côté de certains psaumes. Ça interroge. Que faire de ces passages qui semblent en contradiction avec le message d'amour global de la Bible? Comment les comprendre? C'est une question qui fait réfléchir beaucoup les théologiens et sur lequel il n'y a pas de réponse toute faite et qui satisfasse tout le monde. Mais j'aimerais vous donner quelques points de réflexion. Déjà, dans le cadre de ce psaume, je dirais que si Dieu connaît nos paroles avant qu'elles soient prononcées, il connaît notre cœur, et c'est inutile de lui cacher notre malaise face à tel ou tel. Il les connaît. Mais aussi, il me semble que face à de telles difficultés, à de telles pulsions, il est meilleur de les remettre à Dieu plutôt que de vouloir les traiter soi-même. L'auteur ne dit pas qu'il va passer à l'acte, qu'il va tuer les méchants lui-même, mais il en appelle à Dieu. Et c'est toujours le cas dans les psaumes. Le psalmiste en appelle toujours à Dieu. Ça me fait penser à ce qui peut se passer dans une situation compliquée. Si quelqu'un nous tape sur le système, si on n'y arrive pas avec lui, mais qu'on a un ami qui peut intervenir et nous décharger de la situation. Moi, j'arrive plus à gérer, mais qu'un autre vient, laisse-moi faire, je m'en occupe. Et je crois que c'est ce que fait le psalmiste. Face à des hommes sanguinaires qui sont près de lui, qui sont toujours là, près de lui, qui lui tapent sur le système, il dit à Dieu, écoute, tu t'en occupes. Moi, ça va pas, j'ai des pensées violentes, tu gères. Ensuite, face à des tels passages, il est aussi bien de savoir pourquoi le psalmiste dit que ces hommes sont méchants et comprendre quel est le problème. Et là, je m'arrête sur le verset 20. Les hommes sanguinaires, le méchant, c'est « Ils parlent de toi selon leur astuce, ils t'invoquent pour tromper, eux, tes adversaires. » Ce sont des gens qui utilisent Dieu, qui se servent de son nom pour obtenir ce qu'ils veulent. Ce sont des gens qui disent « Moi, je connais Dieu, il faut que tu fasses ceci. » Et comme par hasard, c'est dans leur intérêt. Peut-être vous pensez à des situations que vous avez vécues. Vous avez croisé des gens comme ça. Et ces situations ne sont pas normales pour deux raisons. La première, c'est que Dieu est insaisissable. C'est le fruit de la méditation du psalmiste. Autant Dieu connaît tout de lui, avant même qu'il agisse, il sait. Autant le psalmiste reconnaît qu'il ne comprend pas Dieu. Ce Dieu qui aime, malgré notre faute, malgré notre désir de fuite. Et il le dit dans ce psaume. Les pensées de Dieu sont impénétrables. Alors que quelqu'un vienne dire « Moi, j'ai compris les pensées de Dieu, tu dois faire ça. » C'est louche. Deuxième chose, c'est que Dieu n'est pas venu pour nous parler de ce que les autres doivent faire. Il n'est pas venu nous dire ce que les autres doivent faire, mais il est venu nous parler de ce que nous devons faire, ce que moi je dois faire. Il n'est pas venu apporter des arguments pour commander aux autres, pour leur faire faire ce qu'on veut. Non, Jésus s'adresse directement à chacun d'entre nous. Toi, suis-moi. Toi, aime. Plutôt que de t'occuper de la paille dans l'œil de ton voisin, occupe-toi de la poutre qui est dans le tien. Suivre Dieu, c'est soi-même obéir à sa parole, obéir à sa loi, et non pas commander aux autres, leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Ainsi, quand le psalmiste voit de tels méchants qui se servent du nom de Dieu pour leur propre intérêt, eh bien, il a du mal. Il remet à Dieu son dégoût face à ces personnes. Il les remet en lui disant « Vas-y, tu t'en occupes. Moi, examine-moi à fond et réoriente-moi si je me trompe. » Voilà, voilà le voyage, la trajectoire que nous raconte ce psaume. Le psalmiste a commencé sa promenade en méditant d'une caractéristique de Dieu, son omniscience, son savoir parfait. En méditant ce que ça impliquait, il a compris avec effroi toutes les conséquences que ça avait sur lui, à quel point Dieu le connaissait lui, qu'il le connaissait même dans ce qu'il avait de plus sombre, qu'il ne pouvait rien lui cacher. Et alors qu'il se sentait de plus en plus sale, mis à nu, il s'est rendu compte que l'amour de Dieu ne faiblissait pas. Et ça l'a amené à une nouvelle compréhension de ce que Dieu l'aimait, tel qu'il était, avec ses forces et ses faiblesses, tel qu'il est, Dieu l'aime. Ça lui a donné une joie nouvelle, une envie de célébrer Dieu pour son amour et pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il l'a fait, tel qu'il est, pour ce qu'il est aimable, tel qu'il est. Cette différence entre ce qu'il pense de lui et la façon dont Dieu l'aime l'amène à la conclusion que décidément, Dieu est insaisissable, qu'il est impossible d'en faire le tour. Et ça l'a mis en colère par rapport à ceux qui disent avoir compris Dieu et manipulent cette notion dans leur intérêt. Mais surtout, ça l'a amené à prier que Dieu, qui le connaît si bien, lui montre quelle est la bonne voie et qu'il réoriente selon son désir. Cette prière du psalmiste, je crois que nous pouvons la faire nôtre. Je crois que nous pouvons explorer le même chemin. Je crois que nous pouvons méditer notre faiblesse et constater combien Dieu nous aime, malgré cette faiblesse. Car Jésus a donné sa vie pour nous, malgré cette faiblesse. Il a jugé que nous en valions la peine. Je crois que nous pouvons nous aimer. Non pas nous croire formidables et arrivés, mais reconnaître que Dieu nous a fait tels que nous sommes et qu'il nous a réussi. Nous accepter tels qu'il nous a fait. Apprenons à nous voir tels qu'il nous voit. Des personnes pleines d'un potentiel formidable lorsque nous marchons dans sa volonté. Et je crois que nous pouvons faire la même prière finale, de nous montrer quelle est sa volonté, quel est le chemin qu'il veut que nous prenions, qu'il nous montre quand nous nous en écartons. Prions-le de nous transformer, de nous rendre de plus en plus semblables à ce qu'il attend, en ressemblance avec Jésus. Je vous propose de terminer en réécoutant ce psaume. Seigneur, tu m'as examiné à fond et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Par derrière et par devant, tu m'assièges, tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es là encore. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'a tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes paroles sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille. Je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leur astuce. Ils t'invoquent pour tromper, eux, tes adversaires. Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les déteste totalement. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de toujours.